Quand je dis que sa parole déclare que je peux avoir quelque chose, par la foi, je le prends. Alléluia. Je vais écouter la parole de Dieu. Cette parole, c'est la semence incorruptible qui me transforme. Jamais plus je ne serai pareil. J'irai de gloire en gloire par la grâce de mon Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est un grand moment aujourd'hui. C'est un grand moment parce qu'on va commencer une nouvelle série. Une série qui a été annoncée. Qui a vu le petit film qu'a fait Andrew? Qui a vu le petit film? Vous savez, avec le castor, avec le... je sais pas ce que c'est exactement, l'écureuil. Vous l'avez vu, le film? Ok. Donc là, très vite, il y a quelques diapositives que je voudrais vous montrer. On va adapter ce film, comprendre pourquoi est-ce qu'on a pris cette noisette. S'il te plaît. Alors, première diapositive, c'est tout ce qu'on désire mais qu'on ne peut pas avoir par soi-même. On ne sait pas quoi, hein. C'est que je ne suis pas capable de l'attraper moi-même. Mais Dieu y a pourvu pour moi. Et vous savez quoi? On peut en profiter tout de suite, là, aujourd'hui. Car Dieu nous l'a donné gratuitement. Alors, prends-la. N'attends plus. Il veut que nous soyons tous les jours dans la joie, comblés de bénédictions, et que nous l'annoncions sur toute la terre. Vous voyez le petit mouvement, là? Ça veut dire, je fonce. Hey, tu sais, toi, là, tu sais ce que j'ai? C'est quoi que t'as? Alléluia. Ce trésor, c'est pas la peine de le cacher, là. Cette bonne nouvelle, elle doit être partagée dans toute l'humanité. Et elle doit être annoncée partout. Parce que ce que j'ai reçu gratuitement, je le redonne gratuitement à mon tour. Et aujourd'hui, ce cadeau, il est aussi pour vous. Mais attention, voilà, l'ère de la grâce, c'est quoi ça? On parle de quoi là? Il n'est disponible qu'un temps, parce que l'ère de la grâce va se terminer bientôt. Et après, il arrivera un temps où les portes seront fermées. Alors la noix, elle va vous échapper. Aujourd'hui, c'est à toi de décider. Ne la laisse pas t'échapper. Vous avez compris que ce n'est pas la noix. On parle de la grâce. Merci Seigneur. L'ère de la grâce, comment c'est arrivé? Seigneur nous a parlé, moi, à partir du mois de janvier, il m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose sur la grâce, sur l'ère de la grâce. J'ai monté quelque chose très technique, très intellectuel. Et ce document-là, il est parti à la poubelle. J'ai parlé à Pasteur Ken, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il m'a dit, ouais, mais il faut que ce soit, il faut qu'il y ait un but. Et on a créé cette série-là, de trois dimanches. Je vais faire les deux premiers dimanches, Pasteur Ken fera le dernier. Aujourd'hui, on va parler de, où en sommes-nous au juste? L'ère de la grâce, c'est quoi? On est où là? En ce moment, c'est quoi? C'est important. C'est une partie de préambule, de démarrage, où on commence à mettre le terrain, on commence à enlever toutes les mauvaises herbes, préparer le terrain pour ce qu'on va faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler d'un privilège inouï, incroyable, inimaginable. On vit dans une époque au-delà de toute bénédiction. Mais il y a aussi une grande responsabilité. Et ça aussi, on va l'aborder. Avec joie! Oui. Et enfin, le 22 juillet, dernier point de la série, on va parler des signes des temps. Et là, on va comprendre que c'est temps, qu'il est temps. Il est temps maintenant d'y aller. Alléluia. Alors, comme on veut nettoyer le terrain, faire un terrain propre, je vais commencer par parler de quelques termes. Vous savez, nous, on a notre jargon. Je vais donner une petite anecdote que mon épouse avait partagée avec moi. Quelqu'un lui avait dit, mais, hé, hey, toi là, est-ce que tu as été lavé dans le sang de Jésus? Waouh! Vous imaginez quelqu'un qui n'est pas chrétien, lavé dans le sang de Jésus? Mais non! Quoi tu parles là? Je me lave pas avec le sang, moi? Ok. C'est sûr que pour des chrétiens nature, il y a une signification. C'est peut-être pour ça que je veux définir une base. Pas vraiment un glossaire, mais des termes. Et vraiment donner la définition que je vais utiliser par la suite, ce dimanche et dimanche prochain, en des termes bien connus, bien précis. D'abord, je vais parler de la chute. La chute, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est lorsque... Alors, le mot là, c'est séparation. C'est lorsque l'homme rompt la communication et toute relation avec Dieu. Comment ? Par la désobéissance. La désobéissance par rapport à une promesse ou une défaillance, une trahison vis-à-vis de Dieu, qui va conduire à une condamnation. Et cette condamnation, c'est elle qui va donner la séparation d'avec Dieu. Donc c'est sûr qu'on peut lire Romains 5, versets 12 à 14. Et c'est important de voir ça parce que d'un péché, toute l'humanité est pécheresse. Ça, il faut bien comprendre. Les gens qui disent, oui, mais moi, là, je n'ai pas péché, moi, je ne vole pas, je ne tue pas, je suis pur. Oui, non. C'est pourquoi, de même, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, sur tous les hommes. Donc, nous sommes tous concernés. Parce que tous ont péché. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Donc, nous sommes tous pécheurs. Deuxième mot que je voulais apporter, c'était la grâce. Pardon, la dispensation. La dispensation, c'est quoi une dispensation? On entend par dispensation, juste un petit mot technique, mais ça ne va pas aller plus loin. Ah là là, j'aime ça, mais la dispensation, c'est la traduction d'un mot grec qui veut dire oikonomia, et qui, en Éphésiens 10, par exemple, Éphésiens 1, verset 10, par exemple, est traduit par administration. Dispensation, c'est une administration, c'est une économie. C'est la gérance par la régulation, on va dire, par la planification des affaires d'une maison. Une dispensation va se distinguer d'une autre dispensation par une nouvelle position de l'homme face à Dieu et par de nouvelles responsabilités qui lui sont confiées. Donc, de nouvelles relations, c'est le mot, relation, et une nouvelle position. Ok ? Donc, c'est ça qui va caractériser une dispensation. En fait, une dispensation, c'est rien de plus qu'une période de temps au cours duquel Dieu va agir d'une certaine manière avec l'homme. Et c'est sûr que l'homme, lui, en revanche, va être responsable vis-à-vis de Dieu, du respect de cette relation. Voilà. Donc c'est sûr qu'on peut regarder aussi Éphésiens 3, 8 à 9. À moi, le moindre, c'est sûr que c'est Paul qui parle. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ, et de mettre la lumière, la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Là, il parle de la dispensation cachée, la dispensation du mystère. En fait, on va voir tout à l'heure, ou demain, ou la semaine prochaine, que cette dispensation-là, la dispensation du mystère, c'est la même chose que la dispensation de la grâce. Et c'est aussi la dispensation de l'Église. Parce que le mystère, c'est l'Église, en fait. L'Église, en tant que, non pas en tant que bâtiment, là, vous comprenez bien, mais en tant que corps de Christ. Ok ? Troisième mot que je voulais aborder très très vite, là, c'est la grâce. On parle de l'ère de la grâce, mais il faut bien comprendre qu'il ne faut pas confondre la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, elle a été donnée à l'homme depuis le début. Adam, là, il a bénéficié de la grâce, on va le voir. Mais la grâce ne s'est pas arrêtée. L'ère de la grâce, on parle bien de l'ère, cette dispensation-là, par laquelle on a le salut par la grâce. Mais sinon, la grâce de Dieu, elle a été constamment prodigué aux hommes, et merci Seigneur, parce qu'on ne serait pas là en ce moment. On aurait été détruits depuis bien longtemps. Donc, cette grâce est toujours présente depuis le début de l'humanité. Elle a toujours abondé, quelles que soient les dispensations. En fait, il faudrait dire, plus on est sous l'alliance qui porte le nom la grâce, alors que précédemment, dans l'Ancien Testament, ils étaient sous l'alliance qui porte le nom la loi. Okay ? Souvent, on entend dire, on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Attention à ce qu'on dit. Donc, c'est bien précis. Troisième chose, je voulais vous parler du salut. On dit... sacrifice. Ok. Correct ? C'est correct ? Sacrifice. On parle beaucoup de sacrifice, et surtout, quand on parle de sacrifice, et c'est dans ce préambule, c'est ça que je voulais surtout dire, on a toute tendance à penser que les sacrifices rituels font partie de l'ancienne alliance. Et que les sacrificateurs, aussi. Faux. C'est faux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous sacrificateurs avec Christ. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. C'est vrai que sous l'ancienne alliance, il était nécessaire de s'approcher de Dieu par des offrandes. Donc c'est ça le mot, c'est offrande. Des offrandes matérielles, c'était du pain, de l'huile, des sacrifices d'animaux, du sang, etc. Donc il y avait tout un rituel nécessaire pour s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous pouvons nous approcher de Dieu parce que nous avons le sacrifice de Jésus qui fait de nous des sacrificateurs. On peut donc, comme le grand sacrificateur jadis, qui lui était le seul à s'approcher de Dieu, chacun de nous aujourd'hui, on peut sacrifier de Dieu. On peut s'approcher de Dieu. Ça, c'est une nouvelle extraordinaire. Donc, on pourrait lire aussi Deutéronome 27,7, ou on peut lire aussi 1 Pierre 2,5, 5 à 9. Donc ça, je vais peut-être vous laisser lire, prenez les notes, hein, c'est intéressant. Si vous êtes intéressé par ça, j'aurai d'autres versets à vous donner, ça sera facile. Donc, par corrélation, un sacrificateur, c'est celui qui s'approche de Dieu pour lui offrir son sacrifice. Nous, ça va être le sacrifice de notre corps, de notre vie, de ce que nous sommes. Diapositive suivante, on parle du salut. Bon, salut, t'es sauvé, toi ? Ouais, c'est quoi ? Je suis sauvé, mais j'ai pas besoin d'être sauvé, moi, c'est quoi ? Donc, comprendre que nous, c'est sûr, dans notre jargon, le salut, ça a un sens. Et il va falloir l'expliquer aussi à ceux qui n'ont pas compris. Le salut, c'est l'échappatoire. C'est le sauvetage. C'est la bouée de sauvetage qui respecte, c'est important, qui respecte la justice de Dieu à la condamnation que nous méritons tous suite à notre chute. Donc le mot, c'est condamnation. Et qui respecte la justice. Justice, c'est le deuxième mot. Donc c'est ça. C'est un échappatoire qui permet d'éviter cette condamnation qui résulte de la chute. Et le plan du salut, donc en corollaire, le plan du salut, c'est un extraordinaire plan que Dieu a mis en place depuis toujours, et qu'on commence à voir les rouages à partir d'Abraham en fait, que Dieu a mis en place pour le sauvetage de l'humanité. Mais un sauvetage qui va donc respecter sa justice auquel il est lui-même soumis. C'est très important. Le salut, en termes clairs, c'est quoi le salut ? C'est la restauration d'une relation harmonieuse avec Dieu, et cette restauration, c'est le gage de la vie éternelle en sa présence. Waouh ! C'est extraordinaire ! Ok ? On peut effectivement lire Jean 3, verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc c'est ça la finalisation du plan. Jean 12, 47. Si quelqu'un entend mes paroles et ne le regarde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde. Jésus n'est pas venu pour juger le monde. Mais il est venu pour sauver le monde. Donc c'est important de voir que le salut s'obtient par Jésus. Ok ? Alors très vite, on va parler de la diapositive suivante, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on entend par bonne nouvelle, c'est l'évangile de Christ. C'est l'annonce du salut par la grâce, donc le mot c'est grâce, par l'intermédiaire de la foi en Jésus-Christ. Donc quelques versets ici, Matthieu 4, verset 23, Matthieu 24, verset 14, Acte 8, verset 12, qui parle donc de ce mot-là, la bonne nouvelle. Ça, vous le connaissez tous, mais il est possible que dans l'Assemblée, il y ait des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça. Donc c'est important, avant de parler de choses un petit peu plus précises au niveau de la grâce, de l'ère de la grâce, de bien comprendre les bases. Diapo suivante, on parle souvent de mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation, donc le mot c'est séparation, c'est la séparation de Dieu. Hein? Alors, là par contre on va le lire dans Genèse 2, verset 17, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Bon, le jour où il en a mangé, il n'est pas mort. Ça a mis 1000 ans pour qu'il meure. Donc ce n'était pas une mort physique, c'est sûr que ça a entraîné la mort physique. C'est une mort spirituelle. Là, Adam a été coupé de sa communication avec Dieu, séparé. Donc, la mort spirituelle, c'est une séparation de Dieu. Et le résultat, aujourd'hui, donc ça, je l'appuie, je le réappuie, le résultat aujourd'hui, ben on le retrouve partout dans la Bible. Là, je n'ai pris que quelques versets, mais en Romains 3, par exemple, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, on subit tous les conséquences de la chute. Ok ? Et le péché enfante la mort. On trouve ça dans Jacques 1, verset 15. Et le péché enfante la mort. Alléluia. Suivante, diapositive suivante, voilà, enfer. On parle d'enfer. L'enfer, ça n'a pas été créé pour l'homme, comprenez bien. L'enfer, la Bible dit que ça a été créé pour le diable et les anges. Vous voyez, dans Matthieu 25, verset 41, il est dit « Dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Mais retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Ça veut dire que malheureusement, il n'y aura pas que le diable et les anges. Donc qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est le règne du mal. Mais c'est important, et c'est là que je veux le souligner, le mal, c'est l'absence de Dieu. Donc c'est le mot qu'il fallait mettre. Le mal, c'est l'absence de Dieu. Alléluia. Voilà, on a terminé avec les préliminaires. Maintenant, on va passer au plat de résistance. Et on va parler de quoi? On va parler d'une grande histoire d'amour. La plus grande histoire d'amour de l'humanité. J'aime ça. C'est une grande histoire d'amour, c'est l'histoire d'amour de Dieu avec nous. Vous savez, cette histoire d'amour, c'est comme un grand livre, un énorme livre, avec plein de chapitres. Pas tant que ça, quand même. Moi, j'en connais 7. Mais c'est une longue histoire. Et cela a commencé il y a très longtemps. Dieu nous a créés à sa ressemblance, pour son plaisir, et pour que nous le cherchions et que nous ayons besoin de sa présence. C'est pour cela que Dieu a partagé avec nous son esprit. Il nous a fait à son image, et la Bible le répète plusieurs fois. Même dans le même verset, il le répète 2 fois. C'est important. Parce que Dieu nous a créés, a voulu créer comme ça, parce que nous devions être capables de rester auprès de lui et de partager intimement une relation d'amour avec lui. Hein? Je vous invite à regarder si cet après-midi, par exemple, vous avez le temps. Genèse 1, verset 26. Genèse 5 au verset 1 et Genèse 5 au verset 3. Ok ? Donc nous avons été conçus pour rester auprès de lui. Nous avons été conçus pour rester auprès de lui. Ok ? C'est bien, c'est clair, c'est évident. La parole de Dieu, elle est évidente à ce niveau-là. Dieu a voulu nous créer parce qu'il voulait rester auprès de nous. Alléluia. Mais l'homme est un enfant turbulent. Il n'apprend rien, c'est enfantin même. Dieu avait, dès le départ, donné à l'homme quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qu'il a donné à personne d'autre. Le libre arbitre. Oui, mais aussi c'est dur, le libre arbitre. C'est plus simple quand on n'a pas le libre arbitre. On sait ce qu'il faut faire. Mais quand on a le libre arbitre, oh là là. Et Dieu nous l'a donné, parce que c'était une condition nécessaire pour lui ressembler. Alléluia. La seule créature qui a cette faculté, c'est l'homme. Il y a une autre faculté, une petite parenthèse, une autre faculté que Dieu nous a donnée qui est extraordinaire aussi. Vous savez que Dieu a créé l'univers par sa parole. En fait, il a créé l'univers par le Verbe. Lumière soit, la lumière fut. C'est lorsque Dieu prononce que ça marche. Dieu nous a donné la même chose. Nous avons en nous le Verbe créateur. Et c'est nécessaire, aussi nécessaire, pour être en communication avec lui. Nous sommes fabriqués à son image. Ça prend toute sa dimension, là. Comprenez que c'est important. Donc Dieu nous a donné sa capacité, sa force. Pourquoi ? Parce qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et sa nature. Nous sommes donc parfaitement faits pour vivre avec Dieu. Ok ? Et Dieu savait que, en donnant à l'homme autant de liberté, l'homme pourrait, et l'homme allait, s'écarter de lui par le péché. En fait, Dieu ne peut pas rester avec le péché. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Et comme le péché est entré dans l'homme, il y a eu une séparation, parce que Dieu ne pouvait pas rester intimement. Dieu était intimement lié avec Adam. Il avait une communication intime avec Adam. Et comme Adam a été infesté par le péché, Dieu ne pouvait plus rester. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est tous les hommes qui sont dans ce même état. Peut-être mettre la diapositive 23, suivante. Ok, d'accord. Ok, là, je crois qu'on a mis les diapositives avant les autres, ce qui fait que toute la pagination a été refaite. Alors, je risque de donner des chiffres qui ne correspondent plus du tout au bon. Ok, d'accord. Merci Seigneur, c'est toi qui es ma force et ma capacité. Alléluia. Dans Romains 3, alors, la première partie, c'est l'innocence, mais bien comprendre que Dieu, comme Adam a été séparé de lui, Dieu a imaginé un plan de rattrapage infaillible pour sa créature. Un plan où sa créature ne pourrait pas échouer. Où il était sûr, à la fin, de récupérer l'humanité avec lui. Ou tout au moins, la plus grosse partie, ou une partie. Ce plan, Dieu l'a imaginé en plusieurs phases. Ou chapitres. Si on prend un grand livre, si on prend que c'est un grand livre, l'histoire d'amour de Dieu avec l'homme, c'est un grand livre. Donc, en plusieurs chapitres. Et là, aujourd'hui, on va commencer à parler des premiers chapitres. Voici donc les différents chapitres. On peut les appeler aussi dispensations, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou alliances. Donc le premier chapitre que l'homme a vécu, et qui devait, selon la volonté de Dieu, être éternel, c'était le chapitre de l'innocence. Une petite remarque quand même, que je voulais faire. La révélation divine, elle est progressive. Et les exigences de Dieu qui ont évolué de chapitre en chapitre, suivant le degré de révélation des hommes, au départ, l'homme ne connaissait pas le mal. Et ce n'était pas prévu que l'homme connaisse le mal. Donc la caractéristique de ce premier chapitre, qui est très simple, et Dieu voulait vraiment en profiter de sa créature, c'est que l'homme ne devait pas connaître le mal. La seule responsabilité qu'il avait sur la terre, c'était de refléter l'image de Dieu sur la terre. L'homme, Adam, avait toutes les capacités d'un homme moderne. Il avait exactement les mêmes capacités de pensée, d'intelligence. La seule chose qui lui manquait, par rapport à nous, c'est l'absence du mal. Vous savez, l'homme vivait bien. Il vivait une relation plutôt harmonieuse avec son Créateur et avec les autres créatures. Malheureusement, cette relation se termine avec la chute. Alors, quelle était la responsabilité de l'homme? C'était de dominer la terre, Genèse 1, verset 28, de la cultiver, mais il n'y avait pas de ronce, c'était facile, Genèse 2, verset 15, et d'assigner une place à chaque animal. Comment? En le nommant. Vous savez qu'en donnant un nom à quelque chose, on lui donne sa fonction, son utilité. L'homme avait donc la capacité de dire à chaque animal ce qu'il devait être et ce qu'il devait faire. Et c'était ça la responsabilité de l'homme sur la terre. Mais Dieu voulait quand même que tester l'homme. Il voulait être sûr que l'homme avait un cœur d'obéissance, un cœur pour obéir. Et là, il y a une petite épreuve que l'homme lui a donnée. Parce que Dieu voulait absolument savoir quelle était la disposition de cœur de l'homme. Et savoir si l'homme était capable de garder ses commandements. C'est sûr qu'il y a une petite épreuve. Cette épreuve, elle consistait à se priver de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était au beau milieu du jardin d'Éden. Genèse 2, versets 16 et 17. Alors, vous le savez, l'homme n'a pas passé cette épreuve-là. L'homme a échoué. Comment il a échoué? Il a échoué, on le sait, tout le monde le sait. Il a échoué parce que l'homme a écouté sa femme, qui elle a été séduite par le serpent. Ok. Parce qu'il s'est laissé? Parce qu'il a voulu faire plaisir? Ok, je crois que c'est la bonne définition. L'homme a voulu faire plaisir à sa femme. On est tous d'accord?
Oui.
Néanmoins, que l'homme ait voulu faire plaisir à sa femme ou non, le problème c'est qu'il y a eu un jugement de Dieu. Jugement de Dieu parce que Dieu est juste. Et Dieu a appliqué sa justice auquel il est lui-même soumis. Et le jugement de Dieu a été fait parce que Dieu a enseigné l'homme que s'il lui donnait son libre arbitre, il devait porter les conséquences de ses choix. Et la conséquence, c'est donc qu'Adam a été chassé du paradis, et cette ère-là de l'innocence s'est terminée. Mais il y a eu une grâce divine, une grâce incroyable. C'est sûr que Dieu avait préparé quelque chose de magnifique. L'homme n'avait qu'à se servir. L'homme a failli. Mais la grâce de Dieu était là. Et ce qui termine ce chapitre de l'innocence, c'est la grâce de Dieu que l'on voit malgré le fait que l'homme a failli. La grâce de Dieu, on le voit dans Genèse 3, verset 21, où l'Éternel, Dieu, fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu couvre, c'est le mot, couvre. Le mot couvre leur nudité avec des peaux de bête, ce qui est une image du principe de substitution. Répétez, substitution. C'est important. Un animal innocent meurt à la place du coupable, pour couvrir le péché. L'homme est couvert et Dieu ne voit plus le péché. Voyez, c'est Dieu qui a fait à Adam et à sa femme les habits de peau dont il se revêtit. C'est Dieu qui les a fait. C'est par sa grâce. Deuxième grâce, c'est que Dieu a fait une promesse, une extraordinaire promesse. Dieu promet à la femme que sa prospérité écrasera le serpent. Alléluia. Et ça, c'est sûr que c'est l'annonce de Jésus. On voit ça dans Genèse 3, verset 15. Alléluia. Et là se termine donc l'ère de l'innocence. On ne sait pas exactement combien de temps il s'est passé avant, jusqu'à la fin de l'ère de l'innocence, mais il a dû se passer quand même quelque temps, c'est sûr. Tu peux passer à la diapositive suivante, s'il te plaît ? Le deuxième grand chapitre, on va aller très vite là, parce que le temps passe. Le deuxième chapitre, c'est la conscience. Alors qu'est-ce qui se passe là ? On trouve ça dans Genèse 4 jusqu'à Genèse 9. Dans la conscience, ce qui se passe, c'est que chaque homme, aujourd'hui, donc dans ce chapitre-là, le premier jour de la conscience, l'homme a maintenant une conscience par laquelle il est guidé. L'homme a maintenant la conscience et la connaissance du bien et du mal. Et il a la possibilité de faire des choix en conséquence de cause. Une petite remarque. L'innocence est terminée lorsque Adam a mangé la pomme et a été chassé. L'ère de la conscience, elle a démarré, lorsqu'Adam donc est parti du paradis, et elle est encore valide aujourd'hui. Cette conscience-là, elle est encore là. Et elle est capable encore de nous guider. Amen. Donc ça, c'est important de le voir, c'est que tant qu'il y aura des humains sur la terre, nous aurons toujours une conscience. Alors, tu peux revenir à la diapositive précédente. Donc, non, après, voilà. Donc Genèse 4:7, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu agis pas bien, le péché est tapé à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Dieu a donné la possibilité à l'homme de dire non. Oui, je connais le bien et le mal, je connais ça c'est bien, ça c'est mal, mais je peux dire non. Vous savez ce qui s'est passé avec Cain ? Malheureusement, lui, il a failli. Ok ? Et puis ce qui se passe ensuite, c'est que c'est sûr que la méchanceté a commencé à grandir. Et dans Genèse 6, verset 5, on voit que l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et qu'à chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que maintenant que l'homme a pris la connaissance du bien et du mal, Dieu l'a mis au défi de choisir le bien et de l'adorer, d'adorer son Créateur, d'adorer, de lui obéir, d'obéir quelques commandements. Choisis le bien, fais pas le mal. Et la conscience, c'était cette petite voix divine qui pouvait l'approuver à faire le bien plutôt que le mal. Et comment les hommes se sont comportés ? Au lieu d'être à l'écoute de cette petite voix de la conscience qui lui dit de te repentir, fais le bien, l'homme a choisi de l'écraser, cette conscience. Quand je parle de l'homme, c'est je parle de l'homme de la conscience, de la dispensation de la conscience ou au chapitre de la conscience. Aujourd'hui, c'est plus vrai, n'est-ce pas ? Donc, l'homme a décidé d'écraser cette conscience. Cette petite voix-là qui lui parlait, elle s'était tue. Ce qui fait que l'ensemble de l'humanité de cette époque n'avait plus de conscience. Oui, sauf un. Alléluia. Alléluia. Cette conscience ne parlait plus sauf un. Noé, effectivement, est la seule famille qui a fait que Dieu a changé d'idée. Ce qui se développait à cette époque-là, c'était la débauche, la polygamie, la violence, le meurtre, toutes sortes d'injustices se propageaient sur la terre. Et ça a commencé avec Caïn qui a tué son frère Abel. Seul Noé et sa famille ont gardé la conscience, une conscience active, vivace, vivante. Donc le jugement de Dieu, l'Éternel, bon voilà, on le trouve dans le chapitre, dans Genèse 6, verset 5, et on peut le lire, 6, verset 5, vous l'avez pas. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Puis vint le déluge. Et ce fut la fin de ce chapitre. L'homme a failli à son devoir. La méchanceté a grandi et a rendu nécessaire le déluge. Mais là aussi, dans ce deuxième chapitre, ça ne se termine pas comme ça, on voit dans ce deuxième chapitre la grâce de Dieu qui s'étend. Cette grâce de Dieu, c'est Noé. Dieu a vu le cœur de Noé. Dieu a vu que Noé avait gardé sa conscience intacte. Et par Noé, Dieu a sauvé l'humanité. C'est une grâce divine. Genèse 8, verset 21. Okay. Je vais vous lire. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit dans son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je frapperai pas tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, la semaille et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu bénit Noé, c'est Noé le mot, et ses fils, Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et c'est ça la grâce de Dieu dans cette période de l'histoire. Dans ce chapitre numéro 2, chapitre de la conscience, on voit à la fin de ce chapitre la grâce de Dieu qui remet Noé et qui dit, voilà maintenant, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Oui, Noé avait une alliance avec Dieu. Et dans cette alliance, il devait remplir la terre. Alléluia. Et dans Genèse 6, verset 8, on voit, mais Noé obtient la faveur de l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'il était une bonne odeur à son nez. Ok ? Alléluia. Chapitre suivant, chapitre numéro 3, c'est le gouvernement civil. Donc vous voyez que l'innocence, paf, arrêtée net. Fini l'innocence. Deuxième chapitre, c'était la conscience qui est toujours active aujourd'hui. On a toujours cette conscience. Faites-la croître, cette conscience, elle vous guide. Troisième partie, à partir de Noé et l'alliance que Dieu avait avec Noé, c'est le gouvernement civil. Là, ce qui s'est passé là, c'est que les hommes avaient besoin, pour mettre en fonction leur conscience, d'avoir un policier derrière qui lui dit « Toi là, la loi c'est ça !» La loi, non peut-être pas la loi, hein. On va peut-être pas utiliser la loi, mais les ordonnances de Dieu c'est ça, t'as intérêt à la faire. Et c'est ça le gouvernement. Dieu a mis un gouvernement aux hommes pour que les hommes suivent leur conscience. Ne fait pas de mal. Alléluia. L'homme avait besoin d'un encadrement, avait besoin de policiers, d'une structure, d'un chef pour l'aider à faire le bien et à suivre les voies du Seigneur. C'est cela, en fait, le gouvernement civil. Et c'est encore une grâce de Dieu en lui-même, ce chapitre. Alléluia. Donc, Dieu a fait une alliance avec Noé qui donne, d'ailleurs, vous savez quelle est l'alliance de Noé ? Comment on la voit de l'alliance de Noé ? On l'a vu il n'y a pas longtemps, c'est très joli. C'est l'arc-en-ciel. Et vous savez quoi ? L'arc-en-ciel, on le voit encore aujourd'hui. Ça prouve que l'alliance, la Bible le dit, hein, que je donne comme signe de l'alliance avec Noé, l'arc-en-ciel. Et on voit encore l'arc-en-ciel de nos jours, après la pluie. C'est le signe que l'alliance donc du gouvernement est encore active aujourd'hui. Elle est toujours en fonction. La preuve, c'est que nous avons toujours des gouvernements. Okay? Donc on voit bien qu'il y a trois dispensations ou trois chapitres qui se poursuivent en même temps. Alléluia. C'est une petite parenthèse. Donc aujourd'hui, l'homme a évolué. Aujourd'hui, l'homme a même la permission de manger de la viande cachère. Alors qu'auparavant, il était végétarien. Vous vous rappelez ce qui se passait dans Genèse 1 au verset 29 ? Non, je vais vous le lire. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface toute terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Hop, gouvernement civil, donc Genèse 9, verset 3, il dit, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. » Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Ça veut dire que le camembert, c'est notre nourriture. Et puis, il se meut. Non, il se meut pas. Vous n'avez jamais vu des camemberts français ? Et la vie, je vous assure que dans le camembert français, il y a la vie. Hein. Ça grouille. Donc c'est bon, c'est une bonne nourriture. Alléluia. Quel est le défi? Quel est le défi? Le défi là, c'est que l'homme a démontré son incapacité à se gérer lui-même. Dieu décide donc, comme je disais tout à l'heure, d'instituer un gouvernement civil pour assurer l'ordre, la justice et la paix sur la terre. Mais ce gouvernement civil, et c'est là qu'était le défi, devait être à l'image du gouvernement céleste. Ça veut dire qu'il devait être rempli de compassion, d'amour, pour appuyer la conscience de l'homme et pousser l'homme à faire le bien. L'épreuve, c'était de refléter le gouvernement divin en gérant la justice avec une miséricorde. Vous savez que ce gouvernement-là avait le droit de vie et de mort sur les meurtriers. On voit ça dans Genèse 9 au verset 6. Je ne sais pas si on peut le voir là. Genèse 9 au verset 6. Celui qui verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. Ça veut dire que le gouvernement civil avait la possibilité de juger les assassins. C'est fort, ça. Ok ? Donc, le gouvernement humain qui a été instauré, plutôt que s'étaler sur la terre et prendre la possession de la terre, a élu un chef qui s'appelait Nimrod. Et vous savez ce qu'il a fait, Nimrod ? Plutôt que adorer le Seigneur, il a adoré le ciel. Il a construit une tour pour, parce qu'il s'émerveillait de ce qui se passait là-haut, pour regarder les étoiles. Résultat, il s'intéressait plus à la création de Dieu, à la nature de Dieu, plutôt qu'à Dieu lui-même. Et plutôt que s'étaler sur toute la terre, ben Nimrod, il a fait, oh, écoute, on se rassemble là, et puis on se fait notre petite gang. Et ce qu'a fait le Seigneur, c'est, non, là ça va pas, c'est pas ça que je vous ai dit. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé, le jugement de Dieu à cette période-là? Le jugement de Dieu, ça a été de dire, bon, maintenant, là, c'est fini. Maintenant, je vais vous éparpiller pour de bon. Je vais vous donner des langages différents. Vous n'êtes plus capables de vous comprendre. Et c'est sûr que, pour construire une tour, il faut être capable, plus ou moins, de suivre les ordres. Mais là, ils ne se comprenaient plus. Dieu a mélangé les langages. Ce qui fait que l'homme a arrêté de construire cette tour. Et ça a été l'échec de l'homme. Et Dieu a forcé l'homme à s'éparpiller sur la terre, puisqu'il ne se comprenait plus. Mais malgré cela, il y a encore la grâce de Dieu qu'on voit là. Et on la voit comment, cette grâce de Dieu? C'est que malgré tout ça, Dieu n'a pas séparé les familles. Vous vous rendez compte? Tout le monde se parlait, personne ne se comprenait. Sauf que les familles étaient restées, les familles se comprenaient. Les familles sont parties et ont fondé les nations. Et c'est là qu'on voit encore la grâce de Dieu. Oui, Dieu a donné les langages, mais Dieu n'a pas séparé les familles. Alléluia. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu, l'amour d'un père qui veut que son enfant grandisse. Alléluia. Alléluia. C'est bon de voir la grâce de Dieu quand elle agit dans le... Alléluia. Donc ça a forcé les gens à se disperser puisqu'ils ne se comprenaient plus. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on ne se comprend pas? On s'écarte. Finalement, on se dit, peut-être que là-bas, ça sera mieux. Et l'humanité s'est dispersée. Alléluia. Dieu est un Dieu parfait. Alléluia. Donc le mot, c'était séparer. Le mot qu'il fallait trouver, c'était séparer. Parce que Dieu n'a pas divisé les familles. Dieu n'a pas séparé les familles. Alléluia. On en arrive au chapitre 4. Eh, on y arrive, hein. Chapitre 4, qu'est-ce qui se passe? Je vais te brosser là rapidement l'histoire de l'humanité, mais c'est vraiment pour présenter comme quelque chose de magnifique, peut-être qu'on va le voir la semaine prochaine, l'ère de la grâce, qui est le summum de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Son fils. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la promesse d'Abraham? Puisque les peuples sont divisés, les peuples continuent, malgré ça, malgré la conscience, malgré le gouvernement, le peuple continue à adorer des idoles. Alors ce que fait Dieu, c'est que il regarde l'humanité et il tourne son regard sur une personne en particulier. Plutôt donc que regarder toute l'humanité en général, il va regarder un homme en particulier. Et il va lui dire, toi là, tu es mon représentant sur la terre. Et tous tes descendants, ça sera mon peuple. Et c'est ça la promesse d'Abraham. On voit donc de Genèse de 12 jusqu'à 30. Ça a duré 400 ans. Alléluia. Et Dieu suscita un peuple de tous les peuples dispersés sur la terre. Dieu suscita un peuple pour le représenter sur la terre. Et surtout, pour être une bénédiction pour tous les autres peuples. Je ne sais pas si on peut voir Genèse 12. Oui, oui. Et Dieu a dit à Abraham, Abraham donc écrit encore avant la promesse, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. » Alléluia. Toujours à l'arrière, la pensée de Dieu, je veux bénir et je veux que mes enfants bénissent ses enfants. Alléluia. Voyez à quel point Dieu a toujours la même constance dans son amour, dans sa grâce qui est délivrée, malgré le fait que l'homme a failli. Alléluia. Merci pour cette grâce divine, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un autre verset qui est très important, c'est 1 Pierre 3, verset 12. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes sur leurs prières. Mais la face du Seigneur se tourne contre ceux qui font le mal. C'est ce qu'il a fait le Seigneur, là, avec Abraham. Il s'est tourné vers celui qui est juste. Et il a écouté ses prières. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques de cette alliance, de ce chapitre? C'est l'appel d'Abraham qui va commencer ce nouveau chapitre. C'est une promesse à partir duquel Dieu a mis vraiment en marche. Il l'avait annoncé, oui, mais il a vraiment mis en marche le plan de rédemption. Et c'est ça qui est important. Donc c'est ça qu'il fallait, c'était le mot qu'il fallait trouver, le plan. Ce magnifique plan, Dieu a commencé à le mettre en marche avec Abraham. Ce plan de rédemption des hommes. Parce que Abraham, on va le voir tout à l'heure, a réussi l'épreuve de fidélité. Alléluia! Alléluia! Enfin, il y en a un qui a réussi. Alléluia! C'est sur cette période, donc, de la promesse, est caractérisée par une désobéissance quasi permanente du peuple d'Israël, c'est-à-dire des descendants d'Abraham. Dieu a même failli exterminer son peuple. Et c'est parce que Moïse a dû intercéder en sa faveur, maintes fois. On le voit partout. Il y a un grand défi à relever dans ce chapitre-là. C'est que le peuple juif était juste. Le peuple juif, pour être juste, devait faire confiance à Dieu. C'est vrai que là où il était, le peuple juif, il y avait des tas de choses. Il y avait la famine qui régnait, il y avait la guerre, il y avait la maladie, il y avait l'adversité, il y avait la méchanceté, il y avait la cruauté même. Et le défi, c'était que le peuple de Dieu devait faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. On ne peut pas dire que, même Abraham, on ne peut pas dire qu'il a toujours fait confiance à Dieu. Vous vous rappelez là, non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Ok. Non, c'est ta femme. Alléluia. Et puis aussi quand Abraham, quand il a pris la servante, il y a un manque de confiance. Mais malgré ça, Dieu l'a quand même considéré comme juste. Alléluia. Là encore, on voit la grâce de Dieu sur Abraham, qui est passé dessus. Alléluia. Abraham s'est repenti. C'est sûr qu'il s'est repenti. Dieu a pardonné. Cette période est caractérisée par une désobéissance du peuple de Dieu quasi constante. Dieu a demandé à Abraham de lui faire confiance et même d'aller jusqu'à sacrifier son fils unique, héritier des promesses. Et il l'a fait. Et cela lui fut, la Bible dit, cela lui fut imputé en justice. On voit ça dans Jacques 2, verset 23. Malheureusement, il y a eu, après Abraham, bien sûr, il y a eu des faillites, où le peuple de Dieu a encore tombé, a encore failli. Et la conséquence, regardez après ce qui s'est passé, par exemple, dans ce spectaculaire sortie de l'Égypte, du peuple de Dieu, des enfants d'Israël, malgré le fait que Dieu les a extraits de l'Égypte d'une manière incroyable, miraculeuse, extraordinaire, surnaturelle, malgré ça, le peuple de Dieu a échoué le test de fiabilité, en particulier dans le désert. Il n'est pas rentré dans le pays promis. Et la conséquence, le jugement de Dieu, ça a été la loi. Pourquoi Dieu a donné la loi aux Juifs ? Parce que le peuple de Dieu était incrédule. Et Dieu a installé, a institué la loi au Mont Sinaï pour que le peuple de Dieu suive et soit de moi et confiance en lui. Malheureusement, dans Galates 3, verset 19, on trouve « La loi a été donnée à cause des transgressions. » La loi a été donnée à cause des transgressions. Alléluia. Donc, on en arrive au chapitre 5, qui est la loi. Alors, vous voyez, la loi, c'est la flèche verte. J'ai mis le Messie, mais au moment de la loi, on ne savait pas trop ce qui allait arriver. Pourquoi ? Parce que le chapitre de l'Église, on ne savait pas ce que c'était. Donc on pensait qu'à ce moment-là, qu'il allait y avoir l'arrivée d'un Messie. Mais que la loi allait se continuer. Donc la loi, qu'est-ce qu'il y a eu comme caractéristique sur la loi ? Qui a duré quelque chose comme 1500 ans quand même. Le gouvernement qui avait été laissé à la direction humaine a failli lamentablement. Donc ça, c'était donc... Le gouvernement donc, qui avait été instauré avec Abraham et avec les Hébreux a failli lamentablement. La direction humaine a failli lamentablement. Dans ce chapitre, Dieu définit très clairement, de manière très précise, ce que l'homme doit faire. Parce que l'homme dit, oui, mais regarde, j'ai ma conscience, mais je suis pas sûr de ça. Est-ce que c'est pas mauvais de tuer mon frère? Je suis pas sûr. Ma conscience me dit que non. Là, Dieu dit non, 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 non. Là, maintenant, là, je vais fixer les choses. Là, vous n'allez plus, là, inventer n'importe quoi, là, vous allez prendre de prétexte. Fini. Je vais vous donner ma loi. Et là, vous allez la suivre. Vous allez suivre mes ordonnances, mes commandements. Vous savez combien il y a d'ordonnances dans la loi ? 613. On était bien sous la loi. Avant de faire quelque chose, le 610, 611, 612, ah c'est bon, je peux le faire. Vous imaginez ? 613 ordonnances. Alléluia. Et Dieu a donné donc la loi pour que les hommes n'aient plus de prétexte et suivent les directives que Dieu leur donne. L'homme, finalement, dans cette période de chapitre de la loi, devait obéir à ses ordonnances, et ce faisant, il obéissait à la volonté de l'Éternel. Regardez comment Josué va exposer ça au peuple. Moi, il y a un verset là que j'ai mis en rouge, qui est le verset que j'ai accroché dans ma maison à l'entrée. C'est un verset qui m'avait frappé depuis toujours. Voilà ce que dit Josué. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve vers l'Égypte et servez l'Éternel. Et là, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire qu'il s'installe là. Il dit, je prends position. Je suis en béton. Personne pourra me bouger. Et ma décision, elle est prise. Je suis ancré. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous vous rendez compte le poids de cette décision qu'il a prise? Ok? Alléluia. Donc, ça c'est un exemple que je voulais vous montrer, comment Josué a pris la chose. L'épreuve de fiabilité, c'était de se rappeler qu'ils avaient passé 40 années dans le désert à tourner parce qu'ils n'avaient pas eu confiance au Seigneur. Et malgré ça, le Seigneur avait prévu, attention, si jamais vous n'observez pas ces ordonnances qui sont très précises, très détaillées, alors des malheurs vont s'abattre sur vous. Regardez dans 2 Chroniques 7, verset 13. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, oh là là, c'est pénible ça. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, pire que tout ça. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Ces menaces, elles sont très sérieuses là. On rigole plus là. Mais la grâce de Dieu, qui est juste derrière, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Donc on voit que le Seigneur... Après. Donc il y a eu plusieurs famines. Dieu a permis des tas de choses là. La déportation, la destruction du temple. Vous vous rendez compte? Les Hébreux ne pouvaient plus parfaire leur loi. Il n'y avait plus de sacrifice possible. Et malgré tout ça, le peuple juif a failli. Comment est-ce qu'il a failli? Jésus le dit. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent le témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour le savoir. Jean 5 au verset 39. Alléluia. Alors il y a une nouvelle grâce divine qui arrive. Et c'est là la fin de cette première partie. Là je voulais en venir. On se prépare là pour l'ère de la grâce, dimanche prochain. Mais là, cette grâce divine énorme, grâce divine, malgré la faillite des hommes, la faillite de la loi... L'homme a compris la loi sur la lettre et non pas l'esprit. Cette grâce divine, c'est Jésus. Alléluia. Alors aujourd'hui, on est dans un dernier chapitre. Peut-être qu'on va le mettre. C'est le chapitre de l'Église. Vous voyez, il y a des choses là qui ne sont pas nettes, qui sont encore en gris. Ça, pour le moment, on n'en parle pas. Mais aujourd'hui, on est dans une période extraordinaire. Extraordinaire. Cette période a un début... C'est Jésus qui a pris nos péchés sur la croix, qui est ressuscité. Et aujourd'hui, nous avons une place spéciale. Dans cette dispensation, dans ce chapitre-là, l'homme a une place spéciale, une place qu'il n'avait jamais eue avant. Et une place qu'il n'aura jamais plus après. Et dans ce temps-là, nous vivons dans ce temps-là. On va l'exposer ce temps-là dimanche prochain. On va en parler, on va aller voir les détails, les avantages, comme c'est magnifique. C'est un temps inouï. Ça serait tellement dommage que personne d'autre que ceux qui sont déjà chrétiens en profitent. Ça serait tellement dommage parce que cette période-là va se terminer. Il y aura une fin. Mais avant qu'il y ait cette fin, c'est à nous annoncer sur toute la terre. Alléluia. Donc c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Mais déjà, peut-être que tu peux aller plus loin. Encore? 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 Ça c'est pour la prochaine fois. Encore? Voilà. Là, il y a deux choses que je vais vous dire. Ça concerne un appel que je vais faire ce matin. En fait, il y a deux appels que je vais faire ce matin. Premier appel, il s'adresse à tous les chrétiens. Et je vous dis, messieurs, mesdames, il y a un enfer à vider. Et un paradis à peupler. Alors est-ce qu'on va rester main dans les poches? Puis garder savez, comme il faisait là, l'écureuil, là, il y avait sa noix, là, et puis, je veux la cacher, là, c'est mon secret. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Ou est-ce qu'on va le prendre? On va la prendre, cette noix, là, et on va lui dire, tiens, regarde ce que c'est. Là, je voudrais que on se pose la question. C'est à nous à le faire. Mais nous, d'abord, ça passe par chacun d'entre nous, individuellement. La question se pose à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on fait? Deuxième appel, je vais vous dire que pour tout homme, tout lieu, toute race, toute nationalité, tout âge, l'homme, s'il se repentit de ses péchés et accepte d'être pardonné, vous vous rendez compte? Accepter d'être pardonné, on en est à là. Dans ce chapitre-là, dans l'ère de la grâce, on en est à accepter d'être pardonné. Alléluia, quelle chance! Si tout homme sur la terre, quelle que soit sa nationalité, accepte le pardon. Ce pardon, il est gratuit. Il est gratuit, totalement gratuit, désintéressé. Par le seul moyen de la foi, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, quel que soit ce qu'on a fait précédemment, ça ne compte plus du tout. C'est oublié. C'est fini. On est tous au même niveau, là. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul passage. Et il n'y aura jamais qu'un seul passage. Il n'y en aura pas d'autre. Alléluia. Et ce passage-là, pour accéder au salut tout de suite, pas besoin d'attendre, c'est tout de suite. C'est Jésus-Christ qui a payé pour moi, pour vous, pour nous, sur la croix. Et nous, là, on a juste à traverser le pont. C'est tout. Alors, l'appel que je fais là, c'est peut-être qu'on devrait le faire ensemble. Je prends le salut en reconnaissant publiquement. Vous pouvez le répéter? Et en croyant dans mon cœur que Christ est Seigneur et Sauveur. Si parmi vous, il y a encore des gens qui n'ont pas la certitude du salut, c'est quoi la certitude du salut? Si aujourd'hui, là, un Boeing arrivait et s'écrasait sur notre église. Oh, catastrophe! Avez-vous peur de ce qui va se passer après? Si vous savez que pour l'éternité, vous êtes dans les bras de Jésus, dans les bras de Dieu, alors c'est bon. Mais si vous avez le doute, si vous ne savez pas où vous allez, si vous n'avez pas encore la certitude, moi je vous le dis, peut-être que c'est aujourd'hui le moment de le faire. Alors si jamais vous entendez ici le bruit d'un Boeing qui arrive, même si vous ne l'entendez pas, lorsque je vais claquer les mains, une deuxième fois, c'est comme si vous l'entendiez. Et là, il faut courir et dire, oui, moi je veux. Je veux. Je veux t'appartenir, Seigneur. Je veux être avec toi pour l'éternité. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici, mais si c'est le cas, s'il y a des gens qui ne sont vraiment pas sûrs, vous savez, on peut faire partie de l'Église depuis 50 ans et ne pas encore avoir le salut. Mais si vous l'avez, le salut, vous savez que vous l'avez, alors vous êtes sauvés. Si vous n'avez pas ce salut, alors venez maintenant. C'est maintenant. Je rends grâce au Seigneur, parce que tout le monde est sauvé ici. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je te rends grâce Seigneur.